Alors, c'est peut-être un peu ambitieux, un peu prétentieux, ce thème du jour. Comment pardonner? Vous imaginez certainement avoir la recette infaillible avant la fin de... Et automatiquement, ça sera peut-être pas exactement ça. En plus, il faudra revenir la prochaine fois si vous voulez avoir la suite. Parce qu'aujourd'hui, on fera qu'une partie des étapes. Hein. Vous voyez, 12 étapes pour vivre le pardon. On fera les 7 premières aujourd'hui. Et je garde les dernières pour la fois prochaine parce que je me suis dit, sinon on irait trop vite et ça ne marcherait pas. Donc, 3 remarques préliminaires avant de commencer proprement dit. La première, c'est de ne pas se juger mutuellement. Il y a des gens qui ont plus de mal à pardonner que d'autres. Alors, il y a plusieurs facteurs à ça. Il y a des choses qu'on peut nous apprendre quand même pour une part dans l'éducation. Alors, ça facilite les choses. Après, si on a appris déjà petit à pardonner, ça ne veut pas dire que ça sera automatique, mais bon, ça peut faciliter. Il y a des caractères aussi pour qui c'est plus facile que d'autres. Donc, on n'est pas égaux. Donc, ne jugez pas, vous ne serez pas jugés, comme dit Jésus. Et donc, ne jugeons pas ceux qui peut-être ont plus de difficultés à pardonner. On voit qu'il y a des personnes qui sont vraiment dans l'amertume, la rancœur, le ressentiment. Ça peut nous désoler à côté, mais il ne nous appartient pas de juger. Hein. Nous ne sommes pas à la place de cette personne, etc. Donc, ça ne nous appartient pas de juger. Ça, c'était le premier préliminaire. Deuxième préliminaire, alors c'est évident, c'est un peu des portes ouvertes que j'enfonce, mais il y a des pardons ordinaires et des pardons extraordinaires. Il y a les pardons de tous les jours. J'aime toujours prendre l'image des éboueurs. Si les éboueurs ne passent pas, ça devient vite invivable. Mais nous, s'il n'y a pas de pardon dans notre vie quotidienne, ça devient vite invivable, même si ce n'est pas des choses énormes. Ça plus ça plus ça, ça devient vite invivable. Donc le pardon, j'en parlerai. Ces 12 étapes, on ne fait pas forcément les 12 étapes pour chaque offense. Mais le pardon, il y a des pardons ordinaires et puis des pardons extraordinaires pour des choses complètement dramatiques, etc. Ou que nous vivons de manière dramatique aussi. Après, j'en reparlerai un peu de ça. Troisième préliminaire, je trouve que c'est un sujet passionnant aussi pour voir comment on s'imbrique notre action, ce qu'on peut faire, et puis la grâce de Dieu. Parce que dans cette étape du pardon, il faut se relever les manches quand même. Et si on ne le veut pas, ça ne se fera pas sans nous, le pardon. Mais en même temps, ce n'est pas non plus quelque chose de volontariste, le pardon. À un certain moment, ça nous dépasse. Il faut accepter que la grâce de Dieu travaille en nous. Donc, et ça sera plus la fois prochaine, mais c'est un point aussi assez important, mais qui, je trouve, assez important pour le pardon, mais plus généralement pour notre vie spirituelle. Bien sûr qu'il y a des efforts à faire, mais tout ne dépend pas de nos efforts non plus. À un moment, notre vie spirituelle, on n'ira pas très loin si c'est la grâce de Dieu qui nous fait avancer à un certain moment. C'est pas nos efforts. Alors, bien sûr, il y a aussi nos efforts, Alors, mon guide, ça sera le père Monbourquette, Comment pardonner. Alors, je ne sais pas s'il est à la librairie, mais sinon, vous pouvez en commander une vingtaine pour la fois prochaine. Alors, il y a des exercices pratiques, etc. Donc plutôt que d'inventer, il y a plein de pardonner en 5 étapes. Ou, lui, c'est 12 étapes. Donc, je vais suivre ce qu'il dit, parce que je trouve que c'est intelligent. Maintenant, il y aurait sans doute d'autres manières de présenter les choses, mais j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé un peu comment ça fonctionnait. Alors, vous trouvez les 12 étapes sur votre petite feuille, je vais y revenir maintenant. Alors, je vous le cite, donc, le père Monbourquette, un Canadien. C'est pas si simple de pardonner. Il suffit pas d'appuyer sur un bouton, toc, c'est pardonné, et puis toc, c'est pas automatique comme ça. Sinon, ça serait, on le saurait. Je suis prêtre, psychologue, et j'avais à pardonner à une personne. Je me suis dit tout simplement, je vais lui pardonner, ça va passer. Mais voici que je lui pardonnais le soir et le lendemain matin, j'étais plein de ressentiment, d'amertume, même d'agressivité contre cette personne-là. Et cela a duré plus de 3 ans. Alors ça, c'est son cas, lui, mais c'est certainement pas votre cas. Hein. Alors je me suis posé la question, est-ce qu'il y aurait moyen de pardonner d'une manière systématique ? Est-ce qu'il y aurait un moyen d'en arriver à donner le pardon aux personnes ? Pour un chrétien, c'est la marque d'identification, être capable de pardonner. C'est très caractéristique de nous, chrétiens. Soyez entre vous, je vous cite saint Paul, soyez entre vous plein de générosité et de tendresse, pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Donc voilà. Donc c'est la marque d'identification. C'est quelque chose d'extrêmement important dans la vie chrétienne. C'est là que je me suis dit à lire sur le pardon, je me suis mis à me poser des questions. Je suis aussi psychothérapeute et lorsque j'avais des clients qui avaient de la difficulté avec cette question du pardon, j'essayais de voir comment je pourrais les débloquer. C'est comme cela que j'ai bâti mon livre en 12 étapes pour être capable de pardonner. Voilà, donc on va suivre c'est les 12 étapes qu'il propose. Alors, avant d'entrer dans les étapes, je vais présenter un peu comment ça s'articule. J'aime bien comprendre, moi j'aime bien le plan d'un livre, enfin, on se refait pas, hein. En tout cas moi j'aime bien comprendre un petit peu. C'est pour ça que j'ai pas, vous voyez qu'il y a des choses en italique et des choses qui sont pas en italique. Bon, déjà, le pardon prend du temps. Alors, ça dépend encore de la profondeur de la blessure, mais ça prend du temps, il faut de la patience, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des résistances à pardonner. Alors, ça, c'est beaucoup la première partie. D'un côté, il y a une partie de nous-mêmes, on veut pardonner, et d'un autre côté, on peut pas pardonner. Hein, on est un peu pris dans le meilleur des cas, on veut pardonner. Quelquefois, on n'a même pas envie de pardonner, mais prenons le meilleur des cas, on veut pardonner, mais en même temps, c'est pas automatique, on voit qu'il y a des résistances. Et justement, toutes les premières étapes, les étapes 2 à 7, c'est un peu pour voir un peu l'une après l'autre des résistances qui font qu'on a envie, mais on n'y arrive pas. Et ben, il faut prendre son temps et puis il faut regarder un peu ces résistances qui peuvent nous habiter pour pardonner. Hein, sinon, on appuie à la fois sur l'accélérateur et le frein et on reste au point mort, ça chauffe et voilà. Et ça nous épuise. Voilà. Alors, du coup, les résistances, beaucoup, non. Et puis, alors je l'ai déjà un tout petit peu évoqué, c'est le pardon, il est vraiment à la charnière de l'humain et du surnaturel, du naturel et du surnaturel. Il y a des choses, c'est des choses à faire. Il y a aussi des thérapies du pardon, en particulier aux États-Unis et en Amérique du Nord. Mais une thérapie du pardon, ça en reste à un niveau très humain. Alors à un certain moment, on peut préparer, mais comment basculer dans le pardon, ça c'est une autre affaire qui leur échappe quelque part. Ils peuvent travailler toutes les étapes préliminaires, et puis à un certain moment, le pardon, ça reste une sorte de miracle à un certain moment. Donc, voilà. Et puis, voilà. Et puis, bon, bien sûr que tout ce processus, pour nous chrétiens, il est habité par la prière. Il est, voilà. Alors, les étapes. Petit survol des étapes. Il y a vraiment un mouvement. Donc ça, vous voyez le petit papier, après je suivrai jusqu'au point 7, mais la première étape, c'est décider de ne pas se venger et de faire cesser les actes offensants. Donc on n'est pas encore dans le processus lui-même du pardon. Parce que le pardon, surtout pour des choses graves, ça demande un certain investissement, mais si on commence, c'est déjà d'assainir un peu le point de départ. Donc, je considère ce premier point comme un préliminaire. On n'est pas encore dans le pardon lui-même, mais bon, on pose un peu les affaires pour pouvoir s'engager dans la voie du pardon. Comme hier, vous vous êtes posé pour le mercredi décembre pour vivre un bon carême. Mais il y a besoin de se poser un peu. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, on fait le point et après on y va. Mais la première chose, c'est on fait le point et après les points 2 à 11, c'est vraiment, on y va, autant qu'on le peut. La première mi-temps, donc du point 2 au point 7, c'est finalement se délier du ressentiment. Comment faire pour ne pas être habité, pour un peu drainer, on pourrait dire, tout ce ressentiment qui peut nous habiter dans certaines choses graves. Des années après, hein, on peut le ruminer encore un peu dans notre tête, etc. Hein, ça peut être des décennies après, voilà. Donc comment, drainer ce ressentiment, comment arriver à assainir les choses. Alors, je sors un peu du sujet, mais donc Frère Jean-Pierre vous a fait une publicité que je relaye, si vous voulez évangéliser samedi prochain, n'hésitez pas à venir à Compiègne, on se retrouve à Notre-Dame de la Source à 9h, et après on va évangéliser devant Intermarché. Mais cette évangélisation, c'est en vue d'inviter quelques personnes à la Veillée Espérance qui sera mardi soir à Saint-Paul-des-Sablons. Et dans cette Veillée Espérance, il y a un monsieur qui va témoigner. Et drainer, ça me fait penser à lui. Et du coup, lui avait une infection et pendant plusieurs mois, ils ont drainé son bras pour essayer d'évacuer l'infection et tout ça. Ils ne sont pas arrivés parfaitement, mais voilà. Et du coup, mais pour le pardon, c'est un peu ça. Il faut drainer les choses pour évacuer ce ressentiment parce que c'est un staphylocoque ou je sais pas quoi qui nous empêche de vivre pendant ce temps-là, le ressentiment. Du coup, comment ça, c'est vraiment toutes ces étapes 2 à 7, c'est vraiment ce qu'on va étudier aujourd'hui. Ça sera relativement modeste, hein, ce que je vais dire, mais voilà. Donc, en quelque sorte, ces étapes, c'est un chemin d'apaisement. Parce que si on n'est pas apaisé, on ne peut pas entrer dans la phase de pardon proprement dite. Il y a vraiment cette étape d'apaisement. Vous avez vu peut-être ce film. Je sais pas si je l'ai là, enfin, on peut, ou à un autre endroit. Je reverrai vos visages. Hein, c'est sur la justice restaurative. Alors, ça permet de rencontrer que les, j'en parlerai un peu plus loin, que les, ceux qui ont été offensés et ceux qui les ont offensés, les coupables et les victimes, puissent se rencontrer, ou alors c'est pas directement forcément les coupables et les victimes. Mais du coup, pour apaiser aussi. Donc, c'est vraiment une étape, on pourrait dire tout un processus de deuil pendant ces étapes 2 à 7. Voilà, pour pas être comme omnubilé par l'offense et ne voir que l'offense. Bon, je détaillerai après. L'étape 8, c'est vraiment un moment charnière. Trouver dans sa vie un sens à l'offense, et c'est la résilience. Alors, je parlerai la prochaine fois un peu de la résilience. Ce qui est intéressant dans cette étape, autant les premières étapes, on regarde plus le passé, comment on était blessé, tout ça, on essaie de travailler là-dessus. Autant là, on commence à de tourner notre regard vers l'avenir. Donc c'est. On le voit avec Jésus aussi dans l'Évangile, à certains moments, et il dit, mais non, on ne regarde pas vers le passé, on regarde vers l'avenir. Et ça, c'est un moment capital, mais c'est pour ça que j'ai mis, on bascule dans une deuxième mi-temps, on va dire, du pardon. Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on verra la prochaine fois. Et puis après, il y a la deuxième mi-temps, donc du 9 à 11, et qui consiste finalement à accueillir la grâce de Dieu pour pardonner. Du coup, c'est déjà, première chose, j'ai essayé de mieux comprendre parce que ça me semblait un peu redondant, donc j'ai relu un peu. C'est d'abord goûter le bonheur d'avoir déjà été pardonné. C'est finalement ce que vous avez lu ce matin, la parabole du débiteur impitoyable. Lui, il n'est pas passé par l'étape 9. Il n'a pas goûté ce bonheur que la dette lui soit remise. Du coup, ça l'a bloqué pour la suite. Il ne peut pas pardonner si. Et après, la 10, c'est justement pas un pardon volontariste, mais voir le pardon comme une grâce qui nous est donnée. Je trouve que c'est très intéressant. Et la dernière, en fait, dans son livre, vous verrez dans certaines choses, quand il parle des 12 étapes, il ne le présente pas comme ça, mais en fait, il travaille beaucoup sur les fausses représentations qu'on a de Dieu. Ça se situe plus au niveau de notre intelligence, on pourrait dire, ou qu'on a du pardon, et qui là encore, mettent des résistances qui font qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au bout du pardon. Voilà. Alors ça, c'est toutes ces étapes. Et la 12e, qui est en quelque sorte un peu postérieure au pardon, c'est comment on fait. Alors la première fois que j'avais lu ça, j'avais été un peu surpris. Décider de mettre fin à la relation ou de la renouveler, je me suis dit. Parce que dans ma tête, j'associais trop pardon et réconciliation. Mais c'est complètement différent. Donc, mais ça, on en parlera la prochaine fois. Le pardon, c'est moi qui pardonne. La réconciliation, il faut que les deux soient sur la même longueur d'onde et aient envie de se réconcilier. Si vous voulez réconcilier avec quelqu'un, mais que cette personne, ce n'est pas son problème, vous ne pourrez pas vous réconcilier. Ceci dit, Jésus nous demande toujours de pardonner et nous réconcilier autant que c'est possible, mais ça dépend de l'autre aussi. Hein. Donc ça, on n'a pas la main sur la réconciliation. Sur le pardon, enfin, on fait comme on peut, mais on est à la première personne. Mais la réconciliation, il faut être deux hein, pour se réconcilier. Puis si la personne est morte, ça devient plus compliqué. Voilà. Enfin, ça sera pour la prochaine fois. Avant de démarrer, je vais parler du pardon, mais il y a un certain nombre de ces étapes qui pourraient marcher, entre guillemets, aussi pour un échec. Alors, quand il y a un échec, il n'y a pas un coupable identifiable personnellement devant nous, quand il y a un échec. Mais il y a quand même des étapes, quand il y a un échec, déjà de reconnaître sa blessure, voir où ça se situe, d'en parler peut-être à quelqu'un, de bons conseils si possible, se pardonner à soi-même, trouver un sens dans notre vie à cet échec. Vous voyez qu'il y a un certain nombre d'étapes qui peuvent nous aider aussi pour devant un échec et comment repartir et puis aller de l'avant pour que l'échec ça soit pas un point final, mais voilà, qu'à partir de là je redémarre. Ça, c'était juste l'introduction. Maintenant on attaque. Première étape. Décider de ne pas se venger et de faire cesser les actes offensants. Le père Montbourquet dit, mais on aura du mal à s'engager dans le processus du pardon si on n'a pas une base un peu plus sûre pour démarrer. Alors, la première, je pense que ça peut sembler un peu une évidence, hein, de décider de ne pas se venger, parce que du coup, et ça, la parole de Dieu nous aide justement dans ce sens-là à pas nous venger, à pas ajouter du mal au mal, sinon c'est la spirale du mal qui n'en finit pas. On le voit dans les relations interpersonnelles, mais aussi internationales et tout ça, on s'en sort pas. Mais ça, c'est quand on est livré à la nature, à nos réflexes naturels, on pourrait dire, marqués par le péché. Et du coup, mais ça procède quand même d'une décision, décider de pas, c'est pas le chemin que je veux prendre. C'est vraiment une décision, c'est une parole qui a été beaucoup répercutée après les attentats au Bataclan. Hein, il y a un journaliste, Antoine Léris, qui a écrit une lettre, « Vous n'aurez pas ma haine ». Hein, donc, au Bataclan, il y a son épouse qui a figuré parmi les 89 morts de l'attentat. Et 3 jours après les attentats, il publie sur Facebook un message intitulé « Vous n'aurez pas ma haine » et « Non, je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr ». Et ça, c'est dans des circonstances comme ça, on voit qu'il y a des choses très belles aussi qui, comme en contraste avec l'horreur, de dire « Mais non, je ne veux pas entrer dans cet engrenage de la violence et de la vengeance ». Et d'ailleurs, j'en ai déjà parlé d'autres fois, mais vous savez qu'il y a la vengeance active. On me donne une claque, j'en rends deux. Bon, c'est clair, au moins. Mais il y a aussi la vengeance passive. Hein, quand on boude, c'est une autre forme de vengeance. On fait payer à l'autre, d'une manière ou d'une autre, le mal qu'il nous a fait. Alors c'est aussi de la vengeance. Elle est plus subtile en un sens, mais c'est de la vraie vengeance. Et qui peut faire beaucoup de mal aussi. Donc, voilà. Alors ça, je pense que ça paraît assez évident si on veut s'engager dans la voie du pardon. Ben voilà, je décide déjà, le minimum, c'est de ne pas me venger. Après, le pardon, ça ira plus loin, mais déjà de décider de ne pas me venger. Le deuxième élément dans cette première étape, c'est de faire cesser les actes offensants. Alors là, c'est assez délicat. Je pense notamment dans la vie de famille. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des choses qui se reproduisent indéfiniment? C'est pas forcément très simple, hein, voilà. Mais déjà, quand même, je mettrai dans ce point-là déjà de pratiquer la correction fraternelle. Parce que il peut arriver qu'on se plaint à des tierces personnes de telle et telle chose, mais on n'est jamais allé voir l'intéressé pour lui dire « ça me fait mal ». Et je crois que la première étape, avant de vouloir s'engager dans une voie de pardon, c'est aller voir celui qui... Autant que c'est possible, hein, après, il y a plein de situations, mais autant que c'est possible, aller voir celui qui nous fait mal et puis s'expliquer avec lui. Après, il réagit plus ou moins bien. C'est pas forcément couronné de succès, hein, hélas. Mais alors, il raconte dans son livre, il raconte un certain nombre de choses. Il y a un autre prof qui disait du mal sur lui. C'est ses étudiants qui l'ont. Donc, il lui envoie un petit mot. « Monsieur le professeur, si vous voulez bien ne pas parler de moi à vos étudiants, ce n'est pas nécessaire. » Bon, et puis ce professeur lui dit « Vous devenez paranoïaque, c'est pas parce qu'on fait une remarque de temps en temps, voilà. » Alors, un mois plus tard, les étudiants lui disent « Il continue à dire du mal de vous. » Alors là, la moutarde monte un peu plus. Je lui envoie ce mot « Monsieur le professeur, je vous convoque chez le directeur et on doit régler cette situation-là une fois pour toutes. » Il doit avoir un peu de tempérament quand même. Et puis, finalement, ça a calmé le professeur et voilà. Et il a arrêté. Et à partir de là, il a démarré son processus de pardon. Et donc, sa remarque, c'est que quelquefois, on manque de courage pour aller voir aussi ceux qui nous font du mal pour leur dire, tu sais, tu me fais du mal, là, ça me détruit, ça. Alors après, vous trouvez les mots et tout ça. Et la correction fraternelle, c'est pas pour se venger, la correction fraternelle. Hein, sinon, c'est plus de la correction fraternelle, c'est de la vengeance. Mais c'est pour dire à l'autre, voilà ce que ça produit en moi. Et ça demande du courage, quelquefois, souvent. Hein, c'est la correction fraternelle, on la pratique en mode CNV, hein, la communication non violente. Hein, donc c'est pas de manière accusatrice qu'on fait la correction fraternelle, mais on dit les choses quand même. Voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. La correction fraternelle est un acte plus charitable que le soin des malades ou le soulagement des pauvres. Donc pratiquer la correction fraternelle. Mais ça suppose de travailler un peu sur soi avant d'aller voir l'autre. Si vous êtes énervé, c'est pas le moment. Attendez un petit peu. Voilà. Toujours dans ce point-là, de faire cesser les actes offensants, hein, il faut toujours garder à l'esprit que c'est pour construire. Si on va dire quelque chose à l'autre, c'est pour construire. C'est pas simplement pour soulager. Donc... Mais c'est important encore de le dire parce que sinon on voit que certaines fois on ne dit pas assez les choses et on voit que ça commence à nous porter sur le système et qu'on a du mal à parler aimablement à la personne. Donc il faut trouver qu'est-ce que je peux supporter. Quelquefois il y a des choses, il faut bien supporter, hein. Personne n'est parfait. Et puis, il y a des choses qu'il faut supporter. Il y a des choses, on voit qu'on a du mal, on ne peut plus le contenir. Ça sort par des petites piques et tout ça. Donc, il faut faire quelque chose à ce moment-là. Et puis, ce que dit aussi Jean Monbourquette, c'est que certaines fois, il faut passer par la justice. fallait dénoncer, déposer une main courante, ou voilà, quelquefois, si la personne, le pardon n'est pas contre la justice. Certaines fois, hein, on est toujours dans cette première étape, il faut essayer de contenir un petit peu le mal. Sinon, on aura du mal à investir toute notre énergie pour pardonner. Alors, tout ça, ça demande pas mal de discernement. Hein. Je vous dis les choses un peu brutes de décoffrage. Ça demande pas mal de discernement, surtout quand c'est en famille, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que cesser les actes offensants? C'est pas automatique. On voit bien en communauté. Alors, il y a des choses plus ou moins graves aussi. Hein. Il faut mettre de l'aggravation. Hein. Tout n'est pas à mettre sur le même niveau. Mais je trouve que c'est intéressant. Cette idée est intéressante et on peut le méditer, voire quelquefois, mais il faut porter plainte. Mais du coup, vous voyez que ce n'est pas une escalade dans le sens de la vengeance, c'est une escalade parce que justement, il faut essayer de voir comment on peut faire. Comme on voit, il lui écrit une première lettre, ça ne marche pas, du coup, il prend un autre moyen, mais en restant, si possible, dans la paix. Mais je pense que c'est... Voilà. C'était la première étape. Deuxième étape, reconnaître l'offense et accueillir la honte. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est de voir que quelquefois... On est offensé, mais ça nous touche, ça nous dévalorise aussi. Je prends l'exemple qui me vient à l'esprit. S'il y a une infidélité conjugale, alors c'est une offense, mais en même temps, la personne qui subit cette infidélité, ben c'est aussi... Habituellement, la personne, sur l'estime d'elle-même, elle perd beaucoup d'estime d'elle-même à ce moment-là. Ça la remet beaucoup. Oui, il y a une honte, il y a une... Voilà. On pourrait dire, mais oui, non, mais elle n'a pas fauté. Mais de fait, souvent, quand on est offensé, on prend sur soi, qu'on le veuille ou non, une forme de honte. Et du coup, il faut voir comment drainer encore une fois cette honte. Il y a deux choses, deux sentiments en particulier sur lesquels Jean Monbourquette insiste. C'est la honte, hein, c'est étape 2, et puis la colère, c'est l'étape 5. Alors, que faire de ces choses qui nous habitent, ces sentiments qui nous habitent quelquefois? Qu'en faire justement? Donc c'est... Voilà, un sentiment au point de départ, c'est ni bon ni mauvais, ça nous dit quelque chose, ça dit quelque chose de la blessure que ça nous a fait. Mais alors comment, c'est déjà le reconnaître, si on refoule le sentiment, on ne pourra pas travailler dessus. Donc il s'agit de reconnaître, et puis essayer de travailler à partir de, pour apprivoiser ce sentiment qui n'est pas du tout agréable, et si possible le dépasser. Parce que sinon, on se cache derrière d'autres choses. Et quelquefois, il y a des pseudo-pardons. Mais non, c'est travailler sur cette honte. C'est aussi, toujours dans cette reconnaître l'offense, c'est ne pas minimiser l'offense ou pas excuser trop vite. Quelquefois, la culpabilité, elle est presque inversée. Avec les enfants, c'est typique. Dans les cas d'abus, c'est les enfants qui se sentent coupables alors que c'est les victimes. Hein, vous voyez, les choses, dans notre psychologie, on vit les choses d'une certaine manière qui ne correspond pas forcément à une réalité objective. Mais de fait, c'est comme ça que la personne le vit. Donc, il faut faire avec notre psychologie. Hein, sinon, on n'avancera pas sur le chemin du pardon si on ne prend pas en compte notre... Et une tendance, justement, quelquefois... Alors, certains, ça dépend de notre forme de caractère, Certains ont horreur du conflit. Donc, ils vont avoir tendance à excuser un peu vite les choses pour on met les choses sous le tapis et puis on part comme si de rien n'était. Mais non, c'est pas comme si de rien n'était, il y a eu quelque chose. Donc vous voyez que dans cette étape, reconnaître l'offense, c'est pas minimiser l'offense. C'est pas excuser non plus la personne. Alors on verra après, pas au point de départ en tout cas. Il y a une vraie offense, il ne s'agit pas de la nier, il ne s'agit pas de faire l'autruche. Sinon, on ne pourra pas avancer vraiment en vérité. Dans tout ça, ce qui est important, c'est de coller à la réalité. La réalité aussi de vos sentiments, la réalité de l'offense, de ce qui s'est fait. Et donc, c'est vraiment important. Bon, je passe à la suite. Une autre manière, c'est... presque inverse, c'est de jouer à la victime. Alors, on peut être victime, bien sûr, il y a des vraies victimes, etc., mais être victime et se victimiser, c'est pas la même chose. Du coup, à ce moment-là, quand on est blessé, on se sent tout vulnérable, on voit qu'on n'est pas tout puissant. Quelque part, on pensait que tout allait bien dans notre vie, et à ce moment-là, on voit que du jour au lendemain, on a l'impression que notre monde s'effondre, notre monde en tout cas personnel s'effondre, et qu'on se sent très très petit et on un peu perdu quelquefois. Et on a contact à ce moment-là avec sa faiblesse, on pensait peut-être qu'on était la famille modèle et tout ça, imaginons. Et puis arrive un événement où, je ne sais pas, ben, tout ce qu'on avait imaginé, boum badaboum, tout se casse la figure et on est en contact avec notre fragilité, notre faiblesse, notre... Pour le reste des questions, peut-être j'irai jusqu'au bout. Et puis après, mais vous n'hésitez pas à noter si vous avez telle ou telle question. Et puis... Mais du coup, je reviens à la victime. Quelquefois, reconnaître l'offense, c'est... On en reparlera peut-être à un certain moment, mais c'est aussi de ne pas en rajouter par rapport à l'offense. Victime, c'est aussi une manière de se présenter comme victime. Moi, je suis la pauvre victime, lui, c'est l'agresseur. Et du coup, une manière de se présenter pour que les autres s'apitoient sur nous, bon, qui peut être ambigu. Mais encore une fois, il peut y avoir des vraies victimes, hein. Je nie pas. Après, troisième étape, partager sa blessure avec quelqu'un. Alors là, je ne dis pas d'aller faire des cancans et de bavarder avec tout le monde pour confier ses problèmes à tout le monde. Ça, non. Ça n'arrange pas les choses. Hein. Mais en revanche, de trouver quelqu'un de confiance, quelqu'un qui... Il y a des personnes autour de nous... vous en connaissez certainement des personnes à qui vous pouvez faire confiance, vous pouvez, et qui va pas forcément vous caresser toujours dans le sens du poil, qui va pas systématiquement abonder dans votre sens non plus, mais qui saura écouter sans vous juger. Ça, on a besoin d'être écouté sans être jugé dans ces moments-là, et puis, mais sans être jugé, mais sans non plus trop de complaisance. C'est la personne qui nous écoute le mieux, c'est pas forcément celle qui est la plus complaisante. Et c'est de pouvoir dire aussi peut-être un point de vue un petit peu différent. L'idée de parler à quelqu'un, c'est en mettant des mots, on arrive à objectiver. Parce que quelquefois, sinon, c'est un magma de sentiments. Alors, je l'ai mis de manière un peu chronologique comme ça, mais il peut y avoir des choses qui reviennent un peu après. Ils peuvent relativiser peut-être l'offense ou resituer ou nous pousser un peu dans nos retranchements, mais finalement, qu'est-ce qui t'a blessé? Donc, d'avoir quelqu'un en face qui peut nous reposer des questions, nous aider à mettre un peu de rationalité, quand même, parce que quand on est très blessé, on manque quelquefois un peu de rationalité. Donc, ça nous aide à mettre un petit peu d'intelligence dans tout ça. Voilà. Quelquefois, c'est aussi, quand c'est possible et quand la mousse est retombée, on va dire, c'est de parler avec celui qui nous a fait du mal. C'est pas toujours possible, il faut qu'il soit disposé à ça, mais quelquefois, et en famille par exemple, la plupart du temps, les gens ils veulent pas forcément se faire du mal et ils s'en rendent même pas forcément compte. Donc bon, c'est leur manière de faire, d'être. Alors là aussi, de pouvoir en parler, alors j'évoquais déjà un petit peu ça dans le premier point, mais d'une autre manière, c'est de dire à l'autre. Alors, bon, l'autre, il n'est pas forcément prêt à accepter, hein. Dans tout ça, ce n'est pas automatique, hein, mais voilà. Et puis, il y a une manière de partager sa blessure avec Dieu. Alors, il y a des psaumes où justement, celui qui prie dit toute sa souffrance devant Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Vous avez votre Bible ou pas ? Ah, c'était une vérification. Alors, vous pourriez prendre le premier livre de Samuel, chapitre 1. Versets 8 et suivants. Vous savez de qui il est question au premier livre. Anne, premier livre de Samuel. Chapitre 1, versets 8 à 16, je crois, plus ou moins. Vous vous y retrouvez? Alors, je vous lis juste un extrait, mais vous pourrez le retrouver. Le contexte, vous voyez, c'est Anne est stérile à ce moment-là. Elle désire bien avoir des bébés, mais ça vient pas. Bon, à l'époque, le mari, il a plusieurs femmes, hein, mais c'est plus le cas maintenant. Et chaque fois qu'ils vont offrir des sacrifices, ben, du coup, c'est l'occasion d'une humiliation toujours pour Anne, parce qu'elle dit, non, moi, j'ai plus d'enfants que toi. Et puis, alors, Elkana qui dit à Anne, « Mais pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il triste? Est-ce que moi, je ne compte pas à tes yeux plus que 10 fils ?» Mais bon, ça suffit pas à consoler Anne. Anne, pleine d'amertume, se mit à prier le Seigneur et pleura abondamment. Tandis qu'elle prolongeait sa prière devant le Seigneur, Élie observait sa bouche. Il pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Combien de temps vas-tu rester ivre? Cuve donc ton vin !» Et Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je ne suis qu'une flamme affligée. Je n'ai bu ni vin ni boisson forte. J'épanche mon âme devant le Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une vaurienne. C'est l'excès de mon chagrin et de mon dépit qui m'a fait prier aussi longtemps. » J'aime beaucoup ce passage où elle épanche son cœur vers le Seigneur. Alors, quand on parle de partager sa blessure avec quelqu'un, c'est avec Dieu. Dans la prière, quelquefois, bon... Voilà, Dieu nous écoute, et de faire un peu comme Anne, c'est un beau passage. Et dans la prière, justement, c'est partager aussi ceux qui nous font du mal. Mon Dieu, dans mon impuissance, je confie mes collègues, ça c'est quelqu'un qui raconte ça dans son livre, qui priait. Oui, je les confie à ta grande miséricorde, afin que tu transformes en bien le tort qu'ils m'ont fait, et qu'ainsi ta volonté s'accomplisse. Et petit à petit, la paix est venue pour lui. Voilà. Donc ça, c'était le troisième point, c'est partager sa blessure. Quatrième point, quatrième étape, identifier sa perte pour en faire le deuil. C'est toujours important de revenir, parce qu'il y a des choses, ça prend, surtout si on est hypersensible, une proportion énorme en nous. Mais au point de départ... Il n'y a pas forcément grand chose. Donc, identifier sa perte, c'est aussi mettre un peu de rationalité là-dedans. Alors, déjà, je l'ai déjà dit la dernière fois, je pense, quelquefois on peut être blessé, mais de l'autre côté, il n'y a pas forcément une offense. Dans le sens où la personne ne nous devait pas quelque chose. Bon, de fait, elle a peut-être été vexée ou... Mais certaines fois, on peut être vexé sans qu'il y ait une offense en face. Hein, bon, il faut qu'il y ait quelque chose d'objectif quand même pour une offense, etc. Donc, peut-être que j'avais une attente. Vous vous attendiez que votre mari arrive avec un bouquet de fleurs, il ne l'a pas fait. Mais c'était peut-être pas compris dans le contrat. Hein, donc, si c'était pas compris dans le contrat, c'est pas une offense. Enfin, c'est très sympathique si vous apportez des fleurs, hein, mais bon. Mais je pense que c'est important de remettre un peu de rationalité, parce que quelquefois, on est un peu à fleur de peau et on fait une montagne de choses qui, en fait, non. Et dans la justice, on essaie de voir aussi la matérialité des choses, pas simplement l'impression que ça a provoqué en nous. Et du coup, c'est aussi bien distinguer l'événement de l'interprétation que nous avons faite de cet événement. Et souvent, on est beaucoup plus blessé par l'interprétation de l'événement que par l'événement lui-même. Donc, il faut regarder vraiment la perte réelle qui est subie. Donc, de revenir quand même un petit peu dans le concret et pas simplement ce qui a trouvé un écho en moi. Un point très intéressant, je trouve, c'est aussi de voir, en étant dans cette offense, qui est-ce qui a été touché en moi ? Ça nous permet de nous connaître aussi un petit peu. Alors, il y a un souvenir qui me revient, c'est vieux, hein, comme on le présentait. Donc, j'étais déjà frère, j'étais à Rome à l'époque. Hein. Et c'est vrai que pour moi, c'est important, si je fais une promesse, de pouvoir la tenir. Sauf que le responsable de la communauté à l'époque me dit « Non, tu y retournes pas. » Et moi, j'étais malheureux comme la pierre parce que j'avais l'impression de trahir. Et du coup, ce qui est touché en moi, le point, c'était la question de la loyauté. Est-ce que c'était tout à fait ajusté ? Je ne sais pas. Hein, mais du coup, c'est intéressant, ça nous permet de nous connaître. Il y a la même chose à un autre frère, ça ne lui aurait peut-être rien fait du tout. À moi, ça m'a touché dans ce point-là. Là où quelquefois, si je pense à quelqu'un d'autre, ce qui avait été touché en lui, c'est qu'il avait l'impression qu'on l'accusait, qu'on mettait en doute sa bonne intention. Bon, après, il était peut-être maladroit et tout à côté, mais le fait de mettre en doute sa bonne intention, pour lui, c'était extrêmement blessant. Mais nous, c'est intéressant de voir quand quelque chose nous fait du mal, pourquoi ça me fait du mal comme ça ? Ça nous aide à nous connaître aussi nous-mêmes. Pourquoi ça trouve un tel écho en moi ? Alors voici ce que dit Jean Monbourquette. « Voici quelques-unes des valeurs qui ont pu subir un dommage. L'estime de toi, ta réputation, ta confiance en toi-même, ta foi dans l'autre, ton attachement à tes proches, ton idéal, ton rêve de bonheur, tes biens physiques, ta santé, ta beauté, ton image sociale, tes attentes face à l'autorité, ton besoin de discrétion par rapport à tes secrets, ton admiration pour ceux que tu aimes, ton honnêteté. Du coup, il y a plein d'éléments qui peuvent être touchés d'une manière particulière et selon les personnes, c'est pas la même chose. Et du coup, c'est intéressant de voir parce qu'on peut travailler aussi pour une part en nous, voir est-ce que c'est tout à fait ajusté. Par exemple, mon image sociale, peut-être que j'y tiens trop à mon image sociale, imaginons, peut-être que le Seigneur peut se servir de cette occasion pour me purifier un peu. Pourquoi pas, hein? Toujours dans ce quatrième point, c'est redimensionner les choses. Je vois certaines personnes, si on les contredit, elles ont l'impression qu'on les aime pas. Mais c'est pas le seul problème. On peut avoir une idée différente sans, et tout à fait aimer la personne. Voilà, redimensionner. Non, ce que j'ai dit, c'est que je suis pas d'accord avec toi. Maintenant, c'est un désaccord n'est pas un désamour. Et du coup, de circonscrire quand même, parce que quelquefois, ça prend toute la place. Mais c'est pas très juste. C'est seulement, alors, quelle est la part de moi-même qui est remise en cause ? Peut-être mes idées. J'aimerais que tout le monde pense comme moi. Mais voilà. Et donc, c'est bien de se répéter, mais c'est pas tout mon être qui a été touché. C'est peut-être ma réputation, c'est peut-être mes idées, c'est peut-être... Du coup, de recanaliser un petit peu, parce que ça envahit tout et ça nous submerge sinon. Alors, c'est un petit peu différent, mais de circonscrire le mal. de bien voir quelle est la blessure qui a été faite, plus précisément. Et je pense que ça arrive, il y a quelque temps, j'ai reçu une lettre avec plein de griefs. Il y en avait 14 pages. Alors, dans ces cas-là, mon premier réflexe, c'est de dire s'il y en a autant, c'est qu'il y a beaucoup de mousse. Mais quel est le grief fondamental derrière tous ces griefs? Je n'ai pas vraiment compris quel était. J'ai essayé de comprendre. Mais quand il y a une multitude de griefs, c'est que ça a beaucoup cogité, ça a beaucoup. Et puis, à force de gamberger, on en trouve, on peut allonger indéfiniment la liste. Mais quel était le point vraiment qui... Mais je n'ai pas compris, en fait. En plus, il y a des choses qui ne me semblaient pas pertinentes, mais bon, après, on peut avoir des regards différents sur la réalité, mais en fait, je n'ai pas compris. Et du coup, c'est bien de cerner quand même où est le problème, parce que quand il y en a trop, je me dis, l'émotivité a pris une grande, grande place dans cette affaire-là. Et revenons à quelque chose de plus basique. Atterrissons un petit peu, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et alors, mon bouquet dit aussi que plutôt employer le mot « avoir » que « être ». Par exemple, « j'ai reçu une insulte ». Mais « je suis insulté », ça touche plus à mon être. Mais « j'ai reçu », ça limite plus au niveau de l'avoir plutôt que notre être même. Donc, bon, après, c'est une petite chose, mais voilà, de pas s'identifier. Ça veut dire aussi de pas s'identifier à l'offense, à l'insulte peut-être que j'ai reçue, mais... Voilà, c'est une chose, mais c'est pas le tout. Cinquième étape, accepter la colère. Donc, il y avait la honte à l'étape 2. Là, c'est la colère. Alors, mon Bourquette, il insiste beaucoup sur la colère. Il dit que quelquefois, on a tendance à étouffer un peu la colère. Déjà parce que on a écouté Saint Paul. Alors, Saint Paul, qu'est-ce qu'il nous dit? Si vous êtes en colère, ne tombez pas dans le péché, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas prise au diable. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Alors on se dit, être en colère, c'est du péché. Ça peut être, mais c'est pas toujours. Le sentiment de colère est plutôt quelque chose de sain. C'est justement ce qui est intéressant, c'est de voir que, en soi, la colère, c'est plutôt quelque chose de sain. Ça montre qu'on est vivant et que quand on nous touche, on réagit encore. Et quelquefois, on est surpris soi-même. Quand on touche un point, toc, tout de suite, on réagit. Ça montre qu'on touche un point sensible, ça nous aide à nous connaître aussi. Il y a des choses qui nous tiennent à cœur, ou voilà. Et, alors après, peut-être qu'on peut travailler là-dessus, mais... C'est plutôt un signe de bonne santé psychique de se mettre en colère. Après, il y a colère et colère, bien entendu, parce que c'est comment on la canalise pour qu'elle fasse pas de dégâts, etc. Ça, c'est le sentiment en lui-même n'est ni bon ni mauvais. Après, qu'est-ce que j'en fais? Ça, c'est une autre affaire. Alors, il raconte, c'est un passage intéressant dans son livre. Il y a quelqu'un qui se mettait en colère et tout ça. Et alors, Jean Monbourquette le reçoit et puis il lui dit, mais c'est une amie, votre colère. Essayez de lui parler à votre colère. Et bon, et puis, il était prof, cet homme qui venait le voir. Et à un moment, dans la classe, le ton monte. Habituellement, il piquait une colère, etc. Ce jour-là, il a fait autrement. Justement, Jean Monbourquette l'a aidé à détecter les signes précurseurs de sa colère quand, dans son ventre, ça commençait. Et du coup, ce jour-là, elle a réagi autrement. Il a dit, taisez-vous, parce que j'ai une amie. Là, pour l'instant, je peux la contenir, mais elle risque de faire beaucoup de mal. Si elle vient s'exprimer devant vous, vous la connaissez déjà, cette amie. Donc, je vous conseille de vous taire. Alors, toute la classe. Et voilà. Donc, c'était une manière Alors, je ne dis pas que c'est automatique comme ça, mais je trouvais que c'était intéressant la manière dont il raconte que finalement, voilà, de considérer la colère comme une amie, mais voilà, de prévenir. Alors, quelquefois, on peut s'en aller souffler ailleurs tant que la colère, tant que ça baisse. Après, il faut voir les circonstances. Bon, je n'ai pas de solution miracle. Mais en tout cas, c'est très important, il insiste beaucoup pour pas refouler. Parce que sinon, ça sort à un moment ou à un autre, ça explose. Hein, si, c'est comment la canaliser. Elle veut dire quelque chose, il y a quelque chose. Souvent, devant une injustice, ou ce qu'on ressent comme une injustice, il y a une colère qui monte. Alors, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que... voilà, c'est du coup de la canaliser. Et toujours dans le chapitre de la colère, c'est bien distinguer la colère du ressentiment. La colère, c'est une émotion qui vous arrive à un moment ou à un autre. C'est pas la même chose que si vous mettez la casserole sur le feu et que ça mijote. Et alors, jusqu'à ce que ça explose. Ça, c'est le ressentiment. Ressentiment, c'est, on sent, c'est un peu en boucle. C'est vrai qu'après, la colère, elle explose, mais c'est pas une colère spontanée, c'est une colère qui a été entretenue. Et là, on n'est plus dans l'ordre de l'émotion, on est dans l'ordre du péché. Vous voyez bien. Sixième étape, se pardonner à soi-même. Alors, quelquefois, comme j'ai déjà évoqué, quelquefois on n'a pas du tout... On n'a aucune responsabilité, hein, je pense à l'enfant, etc. Il est appelé à pardonner, mais bon... Mais peut-être qu'il a besoin de regarder aussi pour purger en quelque sorte cette culpabilité qui l'habite, même si elle ne correspond pas à une vraie réalité. C'est aussi, quelquefois on se dit, mais je l'ai un peu voulu, quoi. Je me suis mis dans telle situation, et etc. Mais ça n'avance pas les choses. Alors peut-être à l'avenir, je peux être un peu plus prudent, ou etc. Mais voilà, on n'est pas parfait, etc. Donc il y a une manière aussi d'accepter nos limites, hein, d'accepter notre pauvreté, comme c'était dit tout à l'heure. Peut-être qu'on aurait aimé être la personne qui ne donne aucune prise au mal ou tout ça, mais bon, de fait, on n'est pas parfait. Donc, Et puis je pense que la foi en Dieu nous aide beaucoup aussi justement pour se pardonner à soi-même. Quand Dieu lui-même nous a pardonné, ben ça nous aide à nous pardonner à nous-mêmes. Voilà, j'arrive à la septième étape, la dernière pour aujourd'hui. Comprendre son offenseur, contextualiser. Je ne sais plus si... Ah oui, c'est ça. Alors, vous voyez que ça fait appel à différentes facultés en nous. Les premières facultés, c'est peut-être plus de... toutes nos émotions, etc., notre volonté aussi. Là, c'est plus l'intelligence, comprendre hein, son offenseur. L'intelligence nous aide à mettre une certaine distance avec les choses. Et on a besoin, pour pardonner, de mettre une certaine distance à un certain moment. Parce que, au point de départ, quand on a été blessé, on ne voit que l'offense. On est quand même très centré sur le mal que ça nous a fait à nous. Et du coup, dans cette étape de comprendre l'offenseur, on change un peu l'objectif de place. On n'est plus autant focalisé sur la blessure qu'on a subie. On regarde un peu l'offenseur aussi. Quelle est cette personne qui m'a offensé? Au point de départ, quand on ne comprend pas l'offenseur, c'est le monstre absolu. Mais justement, comprendre son offenseur, c'est bouger un peu pour pas le voir simplement comme le monstre absolu. Alors, ça peut être pour une part un monstre, mais encore une fois, il s'agit pas de minimiser la faute, de l'excuser, hein. Il faut être fidèle à la réalité, encore une fois. Mais c'est pas réduire la personne à l'acte qu'elle a commis. Ça, on le retrouve sans cesse hein, dans l'Évangile, hein, de distinguer le pécheur de son péché. Hein, Jésus n'aime pas les péchés, mais il aime les pécheurs. Hein, il distingue bien les deux. Et comprendre son offenseur, c'est aussi ça. C'est aussi voir la personne au-delà de son péché. Alors ça peut être de le replacer dans son histoire, ou quelquefois même de se mettre à sa place. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je verrai toujours vos visages. Ce film, c'est très intéressant sur la justice restaurative. Donc, c'est des victimes et des coupables qui se rencontrent. Donc, ils ont pas, il n'y a pas de lien direct entre eux. Mais du coup, petit à petit, c'est assez intéressant parce que on voit que l'image évolue de l'autre. Au début, il y a quelques prisonniers, et puis il y a quelques personnes qui ont été victimes, ils se retrouvent dans une salle ensemble. Et du coup, on voit que petit à petit, le regard change un petit peu. Ce n'est pas le monstre total. On voit la personne dans son histoire, dans son contexte, etc. Ça ne veut pas dire que ce qu'elle a fait est bien, ça peut être un drame, etc. Et en même temps, du côté des coupables, du coup, ils prennent mieux conscience du mal qu'ils ont pu faire, etc. Du coup, c'est très précieux. Mais comprendre son offenseur, c'est des victimes vers les coupables, c'est très intéressant pour ne pas réduire la personne au mal qu'elle a fait, même si ça reste un mal. Et c'est peut-être aussi dans ce sens-là qu'on peut entendre cette parole de Jésus d'aimer ses ennemis. C'est aussi de ne pas réduire la personne à ce qu'elle a fait de mal, mais essayer de voir un peu plus loin. Voilà les premières étapes. La prochaine fois, on va arriver au bout du pardon. Alors, si vous avez quelques questions, mais je suis resté à la première mi-temps, on pourrait dire. La première mi-temps, c'est un peu de travailler par rapport à l'offense, par rapport à... on a le regard plus tourné vers le passé. Déjà là, on décale un peu, c'est pas tellement le passé, c'est la personne qui nous a offensés, donc c'est déjà un peu différent. On n'est plus dans le passé, mais a fortiori avec l'étape 8. Voilà, je sais pas si vous avez des questions, mais ça illustre en tout cas qu'il y a tout un travail à faire en nous, qui est peut-être pas pour les bricoles de la vie quotidienne, mais voilà. Ça attire au moins notre attention sur certaines choses. À vous la parole. La prochaine fois, donc ça sera, oui, les dernières étapes, ça sera toujours comment pardonner. Je pense. Que être. C'est... Oui, cela m'a blessé. Mais où cela m'a...
De dire, tu m'as fait mal, tu... On dit tout souvent, il faut le dire, ce qu'on a ressenti.
Ah oui, alors ça c'est un autre point de vue, mais effectivement dans la communication non violente, plutôt que d'avoir le tutu, le tu qui tue, c'est voilà comment j'ai vécu les choses. Donc après tes intentions, tout ça, c'est pas mon sujet, mais voilà ce que ça a produit en moi. Du coup, on déplace un peu, et c'est pas accusateur comme ça. Et du coup, l'autre ne se défend pas forcément immédiatement en disant oui, mais voilà. Et on lui fait un cadeau quelque part, on lui donne notre mode d'emploi un peu. Donc j'ai reçu une insulte, c'est moins fort que voilà, je suis insulté. Mais on le dit aussi d'une autre manière, on ne dit pas de quelqu'un tu es un voleur, mais tu as volé. Tu es un voleur, on réduit la personne au vol qu'elle a commis. Tu as volé, non, tu as posé un mauvais acte, et voilà. C'est un peu dans cette veine-là. Oui. Alors, en soi, c'est bien de prier pour son offenseur. Après, il y a une manière de prier pour son offenseur. Il y a une manière... Alors, à vrai dire, dans les psaumes, je l'ai d'une haine parfaite, etc. Mais, justement, alors, il y a manière et manière de le faire. Et c'est vrai, comme pour parler à quelqu'un, pour parler à un ami, est-ce qu'on va ressasser indéfiniment les choses et du coup, on va s'auto-convaincre de notre malheur, etc., et de la méchanceté de l'autre. Donc ça, si c'est dans ce sens-là, c'est pas bon. Si la prière, c'est pas seulement parler à Dieu, c'est aussi l'écouter. Si on est plutôt disponible et pas simplement... Parce que quelquefois, on peut prier, mais on est tellement centré sur nous-mêmes que voilà, on n'est pas tellement prêt à laisser Dieu nous, peut-être nous infléchir un peu notre discours. Donc, bien sûr, il faut prier pour nos offenseurs, mais il y a manière et manière de le faire. Il y a une manière où on peut se rendre accessible à ce que Dieu, je te présente mon enfanceur, mais je le juge pas quelque part. Il y a une manière de le présenter qui est pas. Ça, c'est un exemple que donnait le Jean Monbourquette. C'était un monsieur qui avait été très blessé par deux personnes. Il était allé les voir, rien n'y avait fait. Bon. Et du coup, il avait prié, mais Seigneur, bénis-les et fais que cette situation difficile tourne à ta gloire, grosso modo. C'était un peu son message. Donc, il se rendait en. Il donnait pas le résultat à produire au bon Dieu, mais bon, voilà, sers-toi de cette situation-là, Seigneur, pour ta gloire, et voilà. Mais bien sûr, on veut prier et on doit prier pour ceux qui nous ont fait du mal, mais pas n'importe comment. Alors, bon, je ne sais pas si je saurais répondre, à vrai dire. Non, c'est vrai qu'une chose est le pardon, et quelquefois on se fait aussi un peu une illusion sur le pardon qu'on a donné. On pense avoir pardonné, on vient nous chatouiller, parce que quelquefois, c'est un peu comme un oignon, hein, y a pas mal de couches. Donc, on pense avoir pardonné, c'est un peu ce que Jean Monbourquette disait. Le soir, je pense avoir pardonné. Le matin, on met le sujet sur le tapis, il grimpe au rideau. Ça veut dire qu'il pensait avoir pardonné, mais que peut-être les choses n'étaient pas encore tout à fait apaisées. Alors, il y a ça. Après, c'est vrai que quand on dit rompre la relation ou la renouveler, certaines fois... c'est pas possible de se réconcilier avec la personne et on se comprendra pas. Donc il faut accepter que la personne elle comprend pas. Dans certains cas, on prend ses clics et ses claques et puis on voilà. Alors c'est plus compliqué si on vit sous le même toit. Si... il y a des situations où c'est compliqué, on peut pas forcément déménager, on peut pas forcément. Mais dans certains cas, on se fréquente plus. Et on peut avoir pardonné tout en se fréquentant plus. Par exemple, je prends un exemple. Si y a une personne, en tout cas pour moi, qui exerce une emprise sur moi et j'arrive pas à me libérer de cette emprise, bien sûr, je vais plus voir cette personne et surtout pas aller discuter avec elle pour voir comment, parce que je me remets de nouveau sous son emprise et on repart pour un tour. Donc, il y a des situations où on peut pas. Hein. Et c'est inconfortable, quelquefois on préfère que les choses soient nettes et qu'on reparte bons amis, mais dans ce cas-là, on ne partira jamais bons amis, parce que justement, il faut qu'on fuit cette personne qui nous fait du mal. Après, il y a mille cas de figure, mais dans certains cas, on aimerait, dans le meilleur des mondes, on aimerait qu'on se réconcilie, et puis ça, c'est le meilleur des mondes. Mais dans la réalité, c'est pas toujours comme ça, hélas. Alors, c'est l'idéal qu'on poursuit, mais c'est bien loin d'être toujours ça.
Comment on sait que c'est pas notre faute à nous, finalement? Vous dites, il ne nous comprend pas, mais peut-être que c'est nous qui ne faisons pas façon. Qu'est-ce que j'ai?
Oui. Ah, tout ça, ça demande un peu de travailler sur nous-mêmes. Effectivement, c'est un peu facile d'accuser les autres, quelquefois, de dire... Alors, dans tout ça, je pense que, pour des choses graves au moins, je pense que c'est intéressant d'être accompagné, d'avoir un œil extérieur, pas forcément un prêtre, mais quelquefois un œil extérieur peut nous aider. Et là, t'es peut-être dans ta bulle, mais encore une fois, pas la personne qui nous écoute forcément avec complaisance, bien sûr quelqu'un qui nous juge pas, Mais ne pas juger, c'est pas non plus être trop complaisant et simplement approuver tous nos choix. Elle peut nous titiller. Ben là, je sais pas si je serais tout à fait d'accord avec toi. Mais après, voilà. Donc, quelquefois, une personne extérieure peut nous aider aussi, justement parce qu'elle est extérieure, il n'y a pas les mêmes affects et tout ça. Donc, elle peut.